VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Idrissa Sédoudia, en compagnie de Timothée Donangmaï. Timothée, bonjour.
Bonjour, Idrissa.
En lieu et place du monde aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale consacrée au discours sur l'état de l'Union, prononcé hier soir par le président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès. Pour commencer, des extraits de son discours. D'abord, ce que M. Trump a appelé le renouveau de l'Amérique.
Il y a trois années, nous avons lancé le grand renouveau pour l'Amérique. Aujourd'hui, je suis devant vous pour partager avec vous les résultats extraordinaires que nous avons accomplis. Nous avons davantage d'emplois, les revenus augmentent, la pauvreté se réduit, la criminalité chute, il y a davantage de confiance et notre pays se porte mieux que jamais et est à nouveau respecté par le reste du monde. Les ennemis de l'Amérique nous fuient. La fortune de l'Amérique se porte mieux. Notre avenir est brillantissime.
Le président Trump a souligné ses grands succès économiques, notamment un taux de chômage réduit des minorités.
Le taux de chômage pour les Noirs américains, les Hispano-américains et les Américains d'origine asiatique a atteint les niveaux les plus faibles de notre histoire. Le taux de chômage parmi les jeunes Noirs américains a atteint son niveau le plus faible. La pauvreté chez les Noirs américains a évolué à la baisse pour atteindre le niveau le plus bas que l'on ait jamais enregistré.
Le président Trump est revenu sur un sujet central à son administration, l'immigration.
Avant que je ne sois élu, si vous arriviez de manière illégale sur notre frontière du Sud et étiez arrêté, vous étiez simplement libéré et permis d'entrer dans notre pays et on ne vous revoyait plus jamais. Mon administration a mis fin à ce système où on intercepte ceux qui entrent illégalement et puis on les relâche. Maintenant, si vous venez illégalement, on va vous expulser du pays dans les plus brefs délais.
La liberté de religion était l'un des points évoqués par le président Trump.
Mon administration défend également la liberté de religion, ce qui comprend le droit défendu par la Constitution de prier dans les écoles publiques. En Amérique, nous ne punissons pas la prière, nous ne faisons pas tomber les croix, nous n'interdisons pas les symboles de la foi, nous n'empêchons pas les prêtres et les pasteurs de parler. En Amérique, nous prisons la religion et la foi. Nous levons nos voix unies dans la prière et à la gloire de Dieu.
Monsieur Trump, qui avait fait campagne en faveur de la lutte contre le terrorisme, a parlé aussi de la sécurité nationale.
Mon administration défend également fermement notre sécurité nationale, luttant contre le terrorisme islamique radical. La semaine dernière, j'ai annoncé un plan novateur pour assurer la paix entre Israël et les Palestiniens, reconnaissant que toutes les tentatives du passé ont été vouées à l'échec et nous devons être déterminés à trouver des solutions créatrices pour stabiliser la région et donner à des millions de jeunes la possibilité de changer et de réaliser un meilleur avenir.
Dans son discours d'hier soir, le président Trump a parlé de la destruction du califat d'Abu Bakr al-Baghdadi et de la mort du fondateur, donc de la mort du fondateur du groupe État islamique et des actions contre le terrorisme islamique radical. Il a aussi parlé de l'assassinat du chef des brigades Quds iraniennes, Qassem Soleimani, en Irak.
En tant que plus grand terroriste du monde, il a orchestré les morts de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a dirigé l'attaque contre les forces américaines en Irak et cherchait à organiser de nouvelles attaques. Et nous l'avons frappé dur. Et voilà pourquoi, le mois dernier, sous mes instructions, l'armée américaine a exécuté une frappe de précision à la perfection qui a tué Soleimani et mis fin à son règne de terreur pour toujours.
C'était des extraits du discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir par le président Donald Trump devant les deux chambres réunies du Congrès. À vous, Tim.
Oui, Elissa, alors nous avions trois invités pour analyser le discours du président Trump, le professeur Emilio Viano de l'American University de Washington, le professeur Leonard Wanchekon de l'Université Princeton et l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Le professeur Viano nous dit ce qu'il a retenu du discours du président Trump.
On peut dire qu'il a touché sur tout ce qui particulièrement est important pour sa base, la base qui l'a voté et sur laquelle il compte pour sa réélection. Tous les sujets, par exemple les religieux, les écoles privées. On a parlé naturellement de l'avortement, de la prohibition de certains types d'avortement, etc. C'est-à-dire, il a pratiquement envoyé son message à tous ceux qui l'ont appuyé dans sa première élection et qui, naturellement, il espère qu'ils vont le refaire cette année aussi.
On signale aussi que nous avons en ligne le professeur Leonard Wanchekon de l'Université Princeton.
Oui, professeur, vous avez donc écouté ce discours. Il a parlé de tout ce qu'il a pu accomplir et de ce qu'il peut encore accomplir, tous ces miracles. Il a parlé aussi, en quelque sorte, de la Bourse de New York comme d'un grand succès. Il a parlé de l'indépendance énergétique des États-Unis en disant que c'est sous son administration que c'est arrivé. J'ai entendu dire par certains experts que, en fait, ça a commencé depuis longtemps, l'indépendance énergétique.
Il s'est attribué tous les succès possibles, économiques, technologiques, également dans les affaires étrangères. Ce n'est pas du tout surprenant, c'est vraiment un discours de campagne. Mais ce que je dois souligner, c'est vraiment le fait qu'il persiste dans la démagogie en ce qui concerne l'immigration. Donc, en fait, la violence dans les écoles, les massacres dans les écoles, et puis la montée de l'antisémitisme, la violence raciale, tout ce qui se passe sous son règne, on n'en parle pas, mais ce dont on parle plutôt, c'est voilà, quelques cas de meurtre et de crimes commis par des immigrants illégaux. Voilà. Donc c'est vraiment en son quoi. De l'autre côté, j'ai trouvé vraiment amusant le fait que les problèmes de l'éducation dans le pays se réduisent tout simplement à envoyer quelques enfants, donner quelques bourses, à envoyer les enfants dans des écoles de leur choix. Comme si, en fait, le problème n'est pas beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Voilà. Et puis c'est intéressant surtout que l'appel à la religion, comme si finalement les démocrates sont anti-religieux et puis les valeurs religieuses fondamentales des États-Unis, c'est lui qui les protège, c'est lui qui protège le droit des gens à prier dans les écoles. Et plutôt c'est la démocratie qui oppose, l'avortement, tout le reste. Quoi. Vraiment, c'est un discours de campagne et je ne m'attendais pas à mieux, ça c'est clair. Mais dans le même temps, ça reste quand même préoccupant. Quoi.
Professeur Wanchekon et aussi professeur Viano, si vous voulez répondre à ces questions, il a parlé effectivement de l'optimisme qu'il y a actuellement et que toutes les races, toutes les religions vont profiter de ces politiques. Et il a parlé aussi de, en mettant en garde l'Amérique, et ça c'est un thème qu'il va probablement développer pendant sa campagne électorale, il a mis en garde contre le socialisme que représente le Parti démocrate tel qu'il l'a présenté.
Oui, le discours a été complètement optimiste. Il a parlé naturellement de le grand retour de l'Amérique. Et le discours de l'Union a pu l'objectif tacite de rassembler les Américains. Un exercice auquel tout le président, naturellement, essaie de faire. Et même le président Trump l'a fait ce soir. Mais ça, c'est pure forme. Tant que la société américaine est très divisée, comme rarement. Par exemple, hier, selon une entreprise de sondage Gallup, 90 des républicains sont satisfaits des actions du président, quand les 7% des démocrates. Et c'est clair qu'il y a une division très, très profonde. Et même le discours de Trump n'était pas pour tous les Américains. Donald Trump ne s'adresse qu'à son électorat. Et tout discours de Donald Trump est un discours électoral, même s'il est à Davos ou au Congrès. Et c'est, comme a dit notre collègue, un discours de campagne au lendemain du lancement des primaires et à moins de mois du supermardi, comme on l'appelle ici. Et je pense que, naturellement, on peut dire qu'il a exagéré beaucoup de thèmes. Par exemple, on parle toujours qu'on a créé beaucoup d'emplois, mais on ne parle pas beaucoup de salaires qu'on peut gagner avec ces emplois, qui fréquemment ne sont pas suffisants. Ou il a dit que beaucoup d'Américains qui dépendaient de l'aide publique pour avoir quelque chose pour manger et vivre, maintenant ne sont plus dépendants. Ils ne sont plus dépendants parce qu'on les a chassés de ces programmes. Et alors, ce n'est pas un succès. C'est condamner beaucoup de monde à la pauvreté.
Professeur Wachikon, le président Trump s'est adressé à sa base, mais il a aussi évoqué des sujets qui pourraient avoir beaucoup de succès chez les républicains comme chez les démocrates. Il a parlé des congés de maternité et de paternité pour les fonctionnaires fédéraux. Il a appelé le Congrès à en faire de même pour les autres Américains.
Bon, c'est des mesures qui sont importantes, mais qui sont quand même relativement limitées dans leur portée. Hein. C'est vrai que les problèmes fondamentaux, par exemple la question des inégalités, l'insécurité, donc qu'il a tout simplement rejeté donc d'un revers de la main.
Le professeur Leonard Wachikon, pour répondre au président Trump, les démocrates ont porté leur choix sur la gouverneure Gretchen Whitmer de l'État du Michigan, Idrissa.
Oui, et d'abord, naturellement, étant donné que M. Trump s'est beaucoup vanté de ses succès sur le plan économique, ce qu'il fait un peu partout d'ailleurs, si vous vous souvenez, quand il s'est présenté, n'est-ce pas, à Davos récemment, il a parlé du même thème, des succès qu'il a remportés, et il continue d'en parler. C'est quelque chose de récurrent chez lui. Alors donc, écoutons ce que pense la gouverneure du Michigan des succès dont se targue M. Trump.
Les travailleurs américains souffrent dans leur propre État, dans le Wisconsin, dans l'Ohio, en Pennsylvanie et partout dans le pays. Les salaires sont restés stagnants alors que les salaires des directeurs des entreprises augmentent de manière vertigineuse. On dit l'économie est forte, mais forte pour qui? Pour Wall Street qui bénéficie des coupes sombres dans l'impôt.
Tim, on aura noté que dans cette réaction, la gouverneure a bien parlé du Wisconsin et de l'Ohio, entre autres, des États clés que M. Trump a remportés la dernière fois, et des États qui souffraient de véritables problèmes économiques, et il avait promis de leur permettre de remonter la pente et autres. Elle vient dire que, bon, mais écoutez, dans des États comme le Wisconsin et l'Ohio qui lui avaient fait confiance, ça ne marche pas aussi bien qu'il le dit. Alors, elle a aussi parlé d'un autre sujet, bon, dont on n'attendait pas du tout le président dans son discours, on ne s'attendait pas à ce qu'il parle de ce qu'on avait appelé tout à l'heure l'éléphant dans la maison, c'est-à-dire l'impeachment qui est en cours.
Donc sa mise en accusation à la Chambre et son procès qui va se dénouer demain au Sénat.
En fait, aujourd'hui même.
En fait. Aujourd'hui.
On voit que vous n'êtes pas très souvent de nuit.
Non. J'ai un peu perdu l'habitude.
Alors donc c'est aujourd'hui même que le Sénat doit dire si le président va être destitué ou non. On sait bien qu'il ne va pas être destitué puisque les républicains, les membres de son parti ont la majorité au Sénat. Donc le vote est prévu aujourd'hui. Mais quand même, la gouverneure a tenu à parler de l'impeachment.
Et le processus de destitution aux États-Unis, alors que nous y observons, peu importe notre patrie, nous devons comprendre que la vérité est importante, les faits sont importants, et personne ne doit être au-dessus de la loi. Ce n'est pas ce que disent les sénateurs. Demain, c'est ce qu'ils font qui est important. Souvenez-vous. Écoutez ce que les gens disent, certes, mais observez ce qu'ils font. Le moment pour agir est venu. Des générations d'Américains comptent sur nous et ne les laissons pas tomber.
La réponse démocrate avec la gouverneure Gretchen Whitmer du Michigan.
Alors, Idrissa, le professeur Leona Wantekon explique tout d'abord l'importance du choix de la gouverneure Whitmer du Michigan pour répondre au président Trump.
Elle est d'un État que les démocrates doivent gagner aux prochaines élections. Donc, en fait, sa réponse est aussi une réponse électorale. Donc, c'est intéressant parce qu'elle a beaucoup insisté sur les limites, donc la croissance économique dont parle Donald Trump, le président Donald Trump, et les autres, avec des exemples concrets, elle a montré donc que voilà, tout n'est pas aussi rose que ça. Mais ce que j'aurais peut-être souhaité qu'elle dise, c'est laquelle n'a pas insisté beaucoup, c'est vraiment la division, le sentiment anti-immigrant, sémite et anti-racial, anti-noir, surtout anti-sémite, donc qui a conduit à la montée donc des violences de toutes sortes. Je pense que c'est quelque chose sur lequel elle devrait mettre l'accent parce que vraiment c'est quelque chose qui est vraiment d'une certaine mesure sans précédent. Quoi.
Professeur Manchekon, il a donné sa position sur l'immigration après avoir dit tout ce qui est fait au niveau de la frontière. Et aussi, après avoir parlé des crimes commis par les illégaux, comme on les appelle dans ce pays, il a dit ce qu'il voyait comme l'immigration dans l'avenir, le mérite, et puis les moyens pour assurer sa propre indépendance financière, ne pas être un fardeau pour l'État.
Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment purement démagogique, parce que ce qui est clair, c'est que la contribution des immigrants à l'économie de ce pays, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la science, et dans le domaine donc du travail dans les grandes entreprises, au niveau de l'agriculture, tout ça, c'est énorme. Et donc, tout le monde le sait, mais en fait, c'est beaucoup plus un discours identitaire. C'est pour montrer que il y a un danger, donc, contre, disons, la dominance raciale donc des blancs et que la menace vient du sud quoi.
Oui,
donc,
professeur Wantekon, nous sommes rejoints par l'ambassadeur Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Bonsoir ambassadeur.
Bonsoir.
Alors nous venons de suivre la réponse des démocrates au discours du président sur l'état de l'Union. Votre réaction à ces deux discours?
Oh, le président Trump s'est félicité pour l'état de notre économie. Et il a parlé comme rien n'a été fait avant son arrivée au pouvoir, il y a 3 ans. Mais c'était pendant l'administration du président Obama que notre expansion économique a commencé. Mais c'est vrai que pendant ces 3 ans, il y avait beaucoup moins de chômage, beaucoup plus de gens qui sont au travail, surtout des femmes, et il y avait une certaine réduction de pauvreté. En même temps, il a exagéré dans certains aspects. Par exemple, il a dit que les Américains au bas de l'échelle ont été augmentés 60%, 70%. Ce n'est pas du tout vrai. La plupart de l'expansion de la richesse depuis son arrivée sont allées vers les gens les plus riches déjà.
Il a fait tout le possible pour démanteler, détruire ce que Obama fait.
Professeur Viano, vous parlez de détruire intégralement en fait l'Obamacare, mais lui, il a dit qu'il est pour la protection de ce qu'on appelle les conditions préexistantes.
Ça, c'est vraiment pas la vérité, parce que comme je dis, l'administration Trump soutient maintenant une action en justice intentée par des États dirigés par des conservateurs qui annulerait l'intégrité de la loi, y compris les garanties que les gens ne peuvent pas être refusés ou facturés davantage pour l'assurance maladie en raison des problèmes médicaux préexistants.
Parlons, professeur, parlons un peu de politique étrangère, parce que là, il a parlé, il y avait même le président autoproclamé du Venezuela qui était dans l'hémicycle. Il a parlé de Cuba, il a parlé du socialisme et de la liberté, et aussi de l'Iran,
de l'Afghanistan,
du nouveau plan de paix pour Israël et le Moyen-Orient, naturellement de al-Baghdadi, naturellement de Soleimani. Et pourtant, tout ça pour dire qu'il menait un combat très efficace contre ce qu'il a appelé, attendez que je cherche le mot, le terrorisme islamique radical.
Oui, mais par exemple, on utilise ici souvent, et le président l'a fait lui-même ce soir, le mot socialisme comme un mot négatif. Le socialisme n'est pas communisme. Le socialisme, nous pensons aux social-démocrates qui sont la majorité dans plusieurs pays, particulièrement les pays scandinaves, par exemple, même au Canada, c'est un pays contrôlé par les social-démocrates et qui fréquemment approuve des politiques très positives pour ces gens, particulièrement dans le secteur de l'emploi, de la retraite, de la santé, de l'éducation.
Ambassadeur Cohen, étant donné que nous sommes dans une année électorale, et quelle est la portée de ces accusations de socialisme que le président lance à l'égard des démocrates? Est-ce que c'est des accusations qui pourraient avoir un impact, étant donné qu'aux États-Unis, le mot socialisme continue quelque part de faire peur?
C'est surtout une attaque contre Bernie Sanders, comme notre collègue vient de dire, parce qu'il y avait une élection, la première élection primaire chez les démocrates était dans l'État d'Iowa hier, et Bernie Sanders et soit a gagné, soit était numéro 2, c'est pas encore terminé, et lui, il s'appelle « Je suis socialiste ». Donc, Monsieur Trump a décidé que Biden, qui a voulu attaquer en Ukraine, n'est plus valable comme candidat, donc il commence à attaquer Bernie Sanders.
Professeur Bancekon, professeur Viano et Monsieur Cohen, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais le président a dit que depuis qu'il est au pouvoir, il a cité ses succès avec l'OTAN, il a cité ses succès avec l'ALENA, qu'il a transformé maintenant, il a cité son succès avec la Chine, le nouvel accord commercial, et il a dit que maintenant le monde respecte l'Amérique, contrairement à ce qui se passait sous Obama. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a décrit une Amérique qui n'existe pas. Parce que cette Amérique, c'est une Amérique de l'imagination de Trump et de sa classe, des personnes très riches qui veulent donner l'idée que tout va très bien ici, que tout le monde travaille, qu'il gagne beaucoup, gagne assez, la santé est garantie, etc. N'est pas comme ça.
Merci, professeur Diano. Professeur Wanchekon.
Je vais confirmer en fait et soutenir donc ce que mon collègue Herman Cohen a dit. En Afrique, par exemple, bon, il a appelé il a manifesté donc beaucoup de mépris et puis manque de respect donc aux pays africains. Vous connaissez l'expression qu'il a utilisée. Et puis tout récemment, donc beaucoup de pays africains, la Tanzanie, je crois, le Nigeria, donc fait partie des pays donc qui sont sur la liste noire. Voilà, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Alors donc voilà, donc il n'est pas populaire. C'est clair qu'il n'est pas aussi populaire en Afrique que sous Obama.
Merci, donc, professeur Wanchekon. Ambassadeur Cohen.
Ce qu'il faut retenir surtout pour la politique étrangère, c'est qu'ils veulent retirer nos soldats de l'Afghanistan. C'est la plus longue guerre de notre histoire. Et je crois que la plupart des Américains sont d'accord avec lui. Je crois que ça, c'est la plus importante chose qu'il a dit.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. Merci à l'ambassadeur Cohen et à nos deux autres invités, le professeur Emilio Viano de l'American University de Washington et le professeur Leonard Wanchekon de l'Université Princeton.
Abdur Mandia avec vous ce jeudi dans Washington Forum. C'est une semaine politique très chargée ici aux États-Unis, avec le début chaotique des primaires chez les démocrates, le discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump et le verdict au Sénat dans son procès en destitution.
Alors que chez les démocrates, les électeurs doivent encore départager plus de 10 candidats, le président Trump souhaite prendre une longueur d'avance sur ses potentiels adversaires qui pourraient sortir affaiblis du Covid de l'Iowa. Nous allons évoquer les implications de tout cela sur la campagne avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous verrez à l'issue sur notre page Facebook.
En lieu et place du Monde Aujourd'hui, édition spéciale sur VOA Afrique consacrée au discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump prononcé hier soir devant les deux chambres réunies du Congrès. Il dit ça, une semaine historique ici aux États-Unis avec lundi le coup d'envoi des élections primaires, les caucus de l'Iowa, mardi le discours sur l'état de l'Union et ce mercredi et le verdict dans le procès en destitution du président Trump au Sénat.
Oui, j'ai tenté de dire que c'était une semaine surréaliste, parce qu'on n'a jamais pensé que, bon, pendant que le Congrès est engagé dans cette histoire d'impeachment, en fait une procédure pour destituer le président et l'empêcher de se présenter aux prochaines élections, le jour, la veille, du vote au Sénat où l'on doit se dire s'il faut ou non le destituer, et disons tout de suite qu'il ne sera pas destitué puisqu'on l'a répété à plusieurs reprises ad nauseam, comme diraient les latins, les sénateurs républicains ont la majorité au Sénat et ne vont surtout pas le destituer. Et le voilà qui se présente à la Chambre des représentants. Et derrière lui, il y a la présidente de la Chambre, qui est dominée par les démocrates, Nancy Pelosi, qui elle-même avait décidé de poursuivre le président et de l'impeach. Il a été mis en accusation, ça reste dans l'histoire des États-Unis. Il est le troisième président à avoir été traîné devant la Chambre des représentants et devant le Sénat pour abus de pouvoir ou en tout cas pour une éventuelle destitution. Et il est là à prononcer ce discours devant la Chambre des représentants. On voit pratiquement pendant tout le discours, on avait l'impression que les démocrates étaient assis sur leurs mains pendant que les autres applaudissaient à tout casser.
Mais à l'entrée du président dans l'hémicycle, Idrissa, protocole oblige. Démocrates et républicains se sont levés pour applaudir le président.
Effectivement, parce qu'il y a la fonction qu'il faut respecter après tout. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Nancy Pelosi, que le président ne cesse de vouer aux gémonies depuis cette histoire d'impeachment, entre autres, a dû le présenter, n'est-ce pas, aux membres du Congrès, aux invités, parce qu'il n'y avait pas seulement, les sénateurs et les députés dans la Chambre, il y avait aussi les juges de la Cour suprême, il y avait les invités, les membres du cabinet, et pendant que ça se passe, il y a en tout cas un membre du cabinet qui est caché quelque part, au cas où Dieu nous en garde, il y avait une catastrophe, et malheureusement, bon, alors donc, il y avait pratiquement tout le monde dans la Chambre des représentants pour écouter le discours du président.
Alors Idrissa, on saura donc aujourd'hui, on anticipe un acquittement du président Trump, mais côté démocrate comme côté républicain, cette question, cette affaire de l'impeachment constitue quelque part un danger pour au niveau électoral.
Au niveau électoral, hier soir, il y a un nouveau sondage qui est sorti et il donnait ce sondage 49% d'approbation au président. Alors, à quoi rime cette affaire de destitution, de impeachment, si on voit sa popularité augmenter ? Malgré tout ce qui a été dit dans ce procès, tout ce qui a été révélé dans cet impeachment au Congrès, non seulement à la Chambre des représentants, mais au cours de ce procès en destitution, malgré tout ça, il a 49%. C'est son taux le plus élevé depuis.
Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale consacrée au discours sur l'état de l'Union. Idrissa Tegoudia, je suis Timothée Donangmaï. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.